revalorisation de la part du gouvernement.
Fausses
offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini, le maillot,
c'est connerie cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même. Même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui.
Oh, René, tous les vendredis, c'est pareil, une télé explosée, hein. La plus rebelle des radios, la plus rebelle des radios. Wow.
Ah, bonsoir, vous êtes sur Radio Canu et c'est l'heure du Canu Info. Et aujourd'hui, au Canu Info, on commencera par faire un point d'actu sur les squats lyonnais.
Ensuite, on vous parlera de la réforme du chômage, puis des accords de performance.
Et enfin, de la grève et manifestation de l'éducation nationale le 1er juillet.
Ensuite, vous aurez la chance d'entendre la lettre de la politique de Castaner sur la rétention. Et puis, on vous parlera d'un militant des droits humains à Calais qui a été condamné pour un tweet.
Et enfin, on vous parlera de ces satanées trottinettes qui nous cassent la nénette.
Et on ira à l'international. On vous parlera du bateau Sea-Watch 3 qui a un corps bloqué à côté des côtes de Lampedusa.
On part ensuite en Alabama pour parler d'une femme enceinte qui reçoit une balle dans le ventre. On l'inculpe pour le meurtre de son fœtus.
Et on parlera des 50 ans de Stonewall.
Pour finir sur le traditionnel agenda du Canu Info du vendredi.
Bonne écoute.
C'est pas grave, je vais... Pardon.
Sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Préfet du Rhône de la région qui s'appelle Stéphane Guillon.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite.
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voire-en-Velin.
Ce reportage sur la grève du
Bâtiment. On a les acteurs joués
par la masse du rassemblement pour le droit à l'IVG. Qui est
l'école de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Et on commence par parler des squats de Lyon, puisque ce matin, la métropole avait assigné en justice le collège Maurice-Sève pour une expulsion en urgence et sans délai. Et donc, la métropole de Lyon met en avant ses intérêts économiques, puisqu'elle doit vendre le collège à Vinci Immobilier, mais Vinci a demandé à racheter le site sans occupant à l'intérieur. Et donc, pour pouvoir vendre ce bâtiment, il faut à tout prix expulser entre 250 et 300 personnes. Donc les soutiens et les habitants dénoncent le double langage de la métropole qui mandate des associations pour intervenir sur l'ancien collège et donc travailler avec les habitants et les soutiens. Et en même temps, elle engage des fonds publics pour aménager le lieu. Non, du coup, elle fait aussi ça. Elle aménage le lieu très sommairement, et parallèlement, elle déclare ce lieu illégal et poursuit en justice les habitants et les soutiens. Donc ce matin, il y avait un appel à être nombreux et nombreuses au tribunal. Le procès a été renvoyé au 24 juillet, donc j'imagine qu'on aura un peu plus d'informations plus tard quand les soutiens et les habitants communiqueront là-dessus. Mais en tout cas, ils restent mobilisés, et ça veut dire que d'ici un mois, il faudra de nouveau être devant le tribunal pour les soutenir. Parce que une expulsion immédiate sera peut-être envisagée par le tribunal. Il y a d'autres squats qui sont aussi expulsables, notamment la Maison Mandela et la Trappe, qui eux-mêmes du coup hébergent des familles qui ont eu des enfants avec, qui ont entre 0 et 10 ans, et pour certains qui sont pas mal scolarisés aux alentours. Et la métropole, du coup, les menacés d'expulsion fin juin, et a priori, il semblerait que l'expulsion aurait lieu du coup juste après la fin de l'année scolaire, mais sans solution de relogement pour toutes ces personnes. Donc les habitants ont besoin dans l'urgence de tentes, de lieux pour poser les tentes, des bouts de jardin, d'avoir accès à l'eau, aux toilettes, de camping-gaz, de matelas, de couches de bébé, de dons en épicerie sèche ou de produits d'hygiène de base. Et tous ces dons peuvent être déposés au centre social de QC ou directement à la maison Mandela. Et on sait aussi que le squat du coup Amphiz est expulsable à partir de septembre. Du coup, c'est un été un peu... Bon, ça augure rien de bon, en tout cas pour plusieurs centaines de personnes. Et ce soir, contre du coup toutes ces mauvaises nouvelles, il y a un rendez-vous qui a été donné à partir de 18h au jardin des Chartreux. Donc je vais vous lire l'appel au rassemblement. Les politiques antimigratoires françaises poussent de plus en plus d'exilés à la rue, alors même que l'État est dans l'obligation d'héberger les demandeurs et demandeuses d'asile, les mineurs isolés et les personnes en situation de vulnérabilité, quelle que soit leur nationalité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'été est tout autant meurtrier que l'hiver. C'est pourquoi nous appelons à un rassemblement ce vendredi 28 juin à 18h au Jardin des Chartreux. Au climat général de xénophobie et de racisme partout en Europe, aux politiques antimigratoires de plus en plus sévères et meurtrières, à la fermeture des frontières qui entraîne la traite d'êtres humains, esclavage en Libye, réseau de prostitution, maltraitance, torture, au traitement inhumain et dégradant réservé aux exilés dans les centres de rétention, nous devons opposer une solidarité sans faille. De plus, les politiques antimigratoires françaises poussent de plus en plus d'exilés à la rue, alors même que l'État est dans l'obligation d'héberger les demandeurs et demandeuses d'asile. Les mineurs... Ah non, pardon, je me répète. Enfin, en tout cas, ils sont obligés d'héberger tout le monde, peu importe la situation administrative et peu importe la nationalité. Et donc, en parallèle, le nombre de logements vides explose et favorise la spéculation immobilière. Malgré l'été, c'est bien la misère qui tue et non le froid. La plupart des squats sont pourtant expulsés en dehors de la trêve hivernale. À Lyon, la situation devient critique. C'est pourquoi nous appelons un rassemblement le vendredi 28 juin à 18h au jardin des Chartreux. Du coup, c'est pas très loin, juste au-dessus, dans les pentes. Et donc, si vous voulez profiter du frais et d'une belle vue, rejoignez tout ce bon monde.
Et puis, on va vous parler maintenant des grèves et manifestations qui vont avoir lieu le 1er juillet dans l'éducation nationale. Du coup, c'est un appel qui a été lancé suite au déplacement du premier jour des épreuves du brevet des collèges. L'intersyndicale appelle à faire du lundi 1er juillet un nouveau temps fort pour la grève des surveillances et la participation à des rassemblements. Donc, après la forte mobilisation du 17 juin, les assemblées générales ont décidé de la poursuite des actions sous diverses formes. Reconduction de la grève des surveillances, rétention des notes du baccalauréat, refus collectif de la fonction de professeur principal pour l'année prochaine, etc. Les organisations syndicales représentatives du public et du privé, de l'enseignement agricole ainsi que du stylo rouge, la chaîne des Bahus soutiennent ces mouvements. Elle continue d'appeler le personnel à se réunir en assemblée générale pour décider collectivement des modalités d'action pour, d'une part, une revalorisation significative des rémunérations, le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat, le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi fonction publique, des créations et non des suppressions de postes. On rappelle qu'il y a 36 000 élèves en plus et 2 650 postes en moins à la rentrée prochaine dans le second degré. Et du coup, il y a des préavis de grève qui ont été déposés à cet effet sur toute la période des examens et des concours. Elle appelle à faire la grève le 1er juillet pendant la surveillance des brevets du collège. Et comme l'a fait l'intersyndicale nationale, après le report des épreuves du diplôme national du brevet, donc le DNB, les organisations syndicales appellent à faire du lundi 1er juillet un nouveau temps fort par la grève des surveillances du brevet. Elle appelle à une manifestation au départ du rectorat à 10h pour rejoindre la préfecture.
Nous allons dans le national.
Alors dans le national.
National.
Je ne céderai rien.
ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Et maintenant, dans le national, on va parler de l'assurance chômage et des discrètes manœuvres financières derrière la réforme des partenaires. Sur le plateau de BFM TV, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a déclaré le 19 juin « Si on ne fait pas d'économie dans 10 ans, on n'aura plus de quoi indemniser les chômeurs ». Cette phrase choc fait suite à plusieurs discours approximatifs qui ont pour objectif de légitimer le plan de réduction des droits des chômeurs et chômeuses à hauteur de 3,4 milliards d'euros. Donc la réforme annoncée touche en effet en premier lieu les allocataires, alors que plus de la moitié des inscrits à Pôle emploi ne perçoivent déjà aucune indemnisation. Elle rehausse de 4 à 6 mois la durée minimale d'activité requise pour être indemnisée. Et il faut avoir du coup maintenant travaillé 6 mois dans les 24 derniers mois au lieu des 28 derniers mois. Donc, par exemple, une personne qui a occupé un emploi entre janvier et mai 2017 ne pourra plus prétendre être indemnisée, bien qu'elle ait cotisé à l'assurance chômage. La reprise d'un emploi de courte durée durant la période de chômage ne permettra plus de prolonger la durée d'indemnisation, sauf si le contrat excède 6 mois. Là, pour le moment, il suffisait de travailler 4 mois et ça rechargeait en fait les droits chômage. Et maintenant, voilà, c'est minimum 6 mois. Il y a une autre mesure aussi qui est prévue, c'est que les indemnités chômage seront comptées d'une nouvelle façon. Donc au lieu de prendre les salaires journaliers en référence, multipliant les salaires perçus chaque jour par le nombre de jours du mois. Enfin, grosso modo, jusqu'à présent, c'était un jour travaillé, un jour rémunéré, ce qui protégeait jusqu'à présent les personnes avec des petits contrats ou des contrats un peu émiettés. Et maintenant, le gouvernement entend prendre le salaire mensuel pour base. Donc si, par exemple, moi je travaille que 5 jours dans le mois, ça va être 5 jours qui vont être mensualisés. Donc je vais avoir l'équivalent de 5 jours travaillés. Il compte aussi les jours sans salaire, ce qui fait que les rémunérations des chômeurs sont beaucoup plus basses. Donc du coup, même des fois, ce ne sera pas intéressant de travailler pour une courte période parce que ça fera des tout petits droits chômage. Voilà, c'est donc en conséquence, le budget va être excédentaire d'un milliard pour le moment. Et au bout du compte, l'ensemble des contributions d'actifs suffit à couvrir l'ensemble des indemnités versées aux chômeurs. Donc le régime contributif fonctionne et se finance seul. Et si on cessait d'imputer le financement de Pôle emploi à l'assurance chômage, il y aurait même assez de ressources pour verser une prime exceptionnelle de 150 euros à chacun des 6 millions d'inscrits. Donc finalement, ça pourrait très bien continuer à marcher comme ça. Le but c'est de faire des économies. Et là c'est un article de Mediapart qui parle de la politique des caisses vides, puisque plusieurs mesures politiques récentes ont accru les difficultés de financement de l'assurance chômage. D'abord, il y a une politique des caisses vides qui a largement réduit les cotisations disponibles en jouant sur deux leviers. Il y a eu d'une part la suppression des emplois aidés et l'explosion du nombre de travailleurs français en situation de détachement qui a réduit le nombre de cotisants, tandis que le recul de l'âge à la retraite a accru le nombre de chômeurs allocataires. D'autre part, il y a le gel des salaires dans la fonction publique et le secteur privé qui ont bloqué le volume des cotisations. Et il y a la facilitation du recours au contrat hors CDI qui est venu renforcer les déséquilibres financiers de l'assurance chômage. Donc pour le moment, il y a un déficit quand même. Donc les cotisations tirées d'emploi en CDI en 2015 rapportaient 29 milliards d'euros, tandis que les chômeurs ayant perdu un CDI recevaient 19 milliards d'euros d'indemnisation. Donc maintenant, le ratio s'inverse totalement pour les détenteurs de CDD ou d'intérim qui reçoivent bien plus d'allocations qu'ils n'ont le temps d'en verser durant les emplois temporaires. Voilà, tout ça pour dire que c'est une réforme voilà, qui va précariser encore plus les plus précaires. Et du coup, ces déficits de l'UNEDIC, ce n'est pas un problème pour tout le monde. Au lieu de passer par la dette publique, l'UNEDIC a émis ses propres titres financiers afin de lever les fonds nécessaires dans les années de pénurie. Donc un montant de 35 milliards d'euros s'est ainsi accumulé au terme de plusieurs années de crise de l'emploi. Et forte de ces fonds, l'UNEDIC est entrée sur les marchés financiers. Et c'est dans ce système opaque que le directeur de l'UNEDIC lui-même explique ignorer qui sont les vendeurs et les acheteurs des produits financiers.
Et donc j'enchaîne sur le travail, parce que si ça semble compliqué dans le futur de pouvoir être au chômage et le rester, eh ben ce sera pas forcément mieux de travailler, parce que les employeurs disposent aujourd'hui d'une arme redoutable pour modifier les règles en matière de temps de travail, de rémunération ou de mobilité. Ce sont des accords, les accords de performance collective ou APC. Et donc ce sont des accords qui, une fois signés, s'imposent aux salariés, quoi que dise leur contrat de travail. Donc ces accords, ils sont issus des ordonnances Macron. Et d'après les chiffres du ministère du Travail, pour l'instant, il s'en est conclu, à la fin mars, en tout cas, il s'en était conclu 142, dont une centaine dans les PME. Ce qui, apparemment, correspond à beaucoup d'accords signés, d'après ce que disait l'article. Et donc ces fameux APC, ils ont plusieurs avantages pour les directions. Parce qu'ils peuvent les utiliser pour un peu tout et n'importe quoi. Enfin, du coup, ils peuvent les utiliser pour toute négociation visant soit à répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, soit à préserver ou développer l'emploi. Une définition du coup assez large qui rend compliquée toute contestation des motifs devant les tribunaux. En deuxième point, les accords, ils portent aussi sur des sujets très vastes, que ce soit l'organisation et le temps de travail, ou les rémunérations, la mobilité professionnelle et géographique. Et troisième point, comme dit un peu plus haut, du coup, les accords y priment sur les contrats de travail individuels. Et donc, toutes les dispositions qui y figurent s'imposent aux salariés. Alors, par exemple, le texte il peut offrir à l'employeur la possibilité de muter des salariés à l'autre bout de la France, sans qu'aucune clause de mobilité ne le prévoie. Et le salarié qui ne serait pas d'accord avec ces règles, n'a pas beaucoup de recours à part la porte. Parce que tout refus vaut en effet licenciement pour un motif spécifique, qui constitue une cause réelle et sérieuse, mais qui reste pour autant en dehors du cadre protecteur du licenciement économique. Alors, contrairement aux anciens accords qui avaient déjà été légiférés, ces accords-là, eux, ils peuvent être à durée déterminée, et ce qui permet que les employeurs ils peuvent réorganiser leur entreprise comme ils veulent, et sans qu'il y ait beaucoup de recours pour les employés. Alors, souvent, ils sont inscrits dans des contextes économiques tendus. Et par exemple, il y a eu un accord très majoritaire, donc CGC-CFTC-FO, qui a été conclu sur le site logistique de pièces détachées de PSA à Vesoul. Et il a été prévu près de 8% d'augmentation de la durée du travail, mais que 3% seulement de revalorisation salariale. Ce qui est quand même plutôt une perte pour les salariés. Ils travaillent plus et ils gagnent moins. Alors, il y a eu beaucoup de gros employeurs qui ont utilisé ces accords, et surtout pour gérer des problématiques locales. Parce que c'était un peu ça la volonté de Macron, c'était de favoriser la négociation au plus près du terrain. Sauf que ça implique en fait un fort dialogue social. Mais dans les PME, les représentants du personnel, ils sont souvent sans étiquette, et rarement armés pour analyser les comptes. Connaître un peu les subtilités du droit du travail, analyser la santé de l'entreprise, des marchés, des concurrents. Et donc, souvent, ils et elles ont beaucoup de mal à démêler du faux, le vrai du faux dans les discours des dirigeants. Et les élus, les élus, normalement, peuvent faire appel à des experts. Mais il faut oser imposer la présence d'un tiers dans un face-à-face avec une direction. Et puis, au-delà de 50 salariés, on ne peut plus faire appel à des experts. Du coup, très peu d'accords contiennent des contreparties solides. Donc, il y a effectivement
il peut y avoir des clauses de revoyure et des dispositifs de suivi, mais il n'y en a quasiment aucun qui, aucune clause en fait, qui implique un retour à une meilleure fortune de l'entreprise. Et alors, autre sujet de la préoccupation, c'est la loyauté de la négociation. Parce que beaucoup d'employeurs, en fait, ils omettent de dire dans quel cadre s'inscrit le texte qui est en discussion. Alors, les syndicats, ils découvrent assez tard, en fait, qu'ils sont en train de négocier un accord de performance collective. Et ce qui est une opacité, du coup, qui est vraiment critiquable, parce que ça fait poser, en fait, une très lourde responsabilité sur les épaules des représentants des salariés. S'ils refusent de signer, on pourra les accuser de mettre en danger la pérennité de l'entreprise. Et s'ils acceptent de prendre le stylo, ben, on leur dira... qu'ils ont instauré des règles qui se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles avec les contrats de travail. Alors, il y a un seul garde-fou qui serait, qui est en fait l'obligation d'avoir une majorité de signatures, soit par la signature de syndicats pesant au moins 50% des voix aux élections professionnelles, soit par l'approbation directe des salariés via un référendum. Mais bon, encore faut-il avoir toutes les informations sur les enjeux et puis une grande confiance dans les syndicats majoritaires.
Et bah ouais, en tout cas, entre les réformes du chômage et les accords de performance, on n'a jamais été autant d'accord avec la chanteuse de Sexy Sushi quand elle dit qu'elle veut pas travailler. Alors, on s'écoute ça.
Et pour continuer ce Canu Info, une petite lettre ouverte écrite par plusieurs associations, dont le GISTI, qui s'occupe de la défense des droits des étrangers. Une petite lettre pour M. Castaner. Monsieur Castaner, votre politique d'enfermement en rétention a franchi la ligne rouge. Voilà, elle s'appelle comme ça et on va lire quelques extraits. Taux d'occupation des centres en très forte hausse. Automutilation, émeutes, suicides, pratiques illégales des préfectures, politiques punitives pouvant aller jusqu'à 3 mois derrière les barbelés, enfermement systématique, enfants privés de liberté. Depuis l'existence des centres de rétention administrative, la situation n'a jamais été aussi alarmante qu'aujourd'hui. 22 associations ont donc écrit cette lettre.
Monsieur Castaner, des hommes et des femmes s'automutilent ou tentent de se suicider dans les centres de rétention administrative, les CRA. Au cours de ces 15 derniers mois, 2 hommes se sont donné la mort dans ces lieux où l'administration enferme des personnes pour les expulser du territoire français. D'autres se révoltent ou expriment leur désespoir à travers des lettres publiques, des grèves de la faim, des émeutes ou des tentatives d'incendie.
Le gouvernement fait le choix d'utiliser l'enfermement en rétention comme outil d'une politique d'expulsion, banalisant la privation de liberté des personnes étrangères à travers des instructions aux préfets qui viennent aggraver celles de vos prédécesseurs. La disproportion des moyens utilisés au service de cette politique de plus en plus carcérale est inédite.
Le nombre de places en rétention a ainsi augmenté de 25% depuis 2018. Ça fait plus de 480 places. Et vous prévoyez la construction de nouveaux CRA. Un tel développement de l'enfermement administratif ne s'était pas produit depuis la politique sécuritaire mise en œuvre par Nicolas Sarkozy il y a plus d'une décennie.
La dernière loi Asile et immigration de septembre 2018 a doublé la durée maximale de rétention et permet désormais d'enfermer toutes les personnes visées durant 3 mois, ce qu'aucun gouvernement français n'avait jamais jusqu'alors proposé. Or, les statistiques sont formelles. Enfermer plus longtemps ne permet pas d'expulser plus. En revanche, être privé de liberté derrière des barbelés pendant 90 jours, c'est subir une machine à enfermer qui brise des vies dans un environnement carcéral oppressant. Des enfants sont traumatisés par cette expérience, des personnes perdent leur emploi ou leur logement, des familles sont séparées, des malades voient leur prise en charge sanitaire interrompue ou amoindrie.
Cette orientation conduit l'administration à maintenir fréquemment des personnes enfermées alors qu'il n'existe aucune perspective d'exécuter la mesure d'éloignement qui les frappe. Cela relève dès lors d'une politique punitive.
Les préfectures assument désormais de prononcer massivement des décisions d'enfermement et d'expulsion illégale. Au-delà de la situation des enfants, la possibilité pour des personnes enfermées de saisir la justice et de défendre leurs droits est limitée par l'urgence et par des garanties amoindries, plus encore en outre-mer, en raison d'un régime dérogatoire. Malgré ce droit au rabais, les juridictions métropolitaines annulent plus de 40% des procédures judiciaires ou des décisions administratives, ce qui traduit l'ampleur des violations des droits perpétrés et le caractère abusif du nombre de ces enfermements.
À tout ceci s'ajoutent des atteintes graves au droit à la santé dénoncées par la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son avis du 17 décembre 2018 et par le Défenseur des droits dans son rapport du 13 mai 2019. Le financement et le pilotage des unités médicales dans les CRA sont insuffisants pour garantir l'accès aux soins et leur continuité. La protection légale contre l'expulsion des personnes les plus gravement malades n'est pas garantie.
Monsieur le ministre, nous vous demandons solennellement de faire cesser cette politique du tout enfermement qui conduit à la maltraitance des personnes étrangères, proscrire tout enfermement d'enfants en rétention, assurer la protection des personnes les plus vulnérables, parmi lesquelles les personnes malades, et mettre un terme aux pratiques illégales de l'administration.
Et donc, maintenant, on va vous parler d'un militant des droits humains à Calais qui a été condamné pour un tweet. Donc, déjà, pour savoir un petit peu de quoi on parle, le contenu du tweet, c'est une photo sur laquelle on voit deux policiers qui sont à côté d'une personne qui est assise par terre. Et du coup, on voit un des policiers qui enlève la couverture à cette personne et cette personne qui répond « mais il fait 2 degrés ». Et le policier répond « ouais, peut-être, mais nous sommes la nation française, monsieur ». Et du coup, ça, c'est le tweet qui a causé tant de problèmes à la personne qui l'a posté. Du coup, c'est à partir d'une photo qui avait été prise en 2017 dans un camp de migrants à Calais. Et du coup, c'était un moment où la police, elle venait d'interrompre une distribution organisée par l'association d'aide aux migrants, dont faisait partie la personne qui a fait ce tweet. Et il y avait deux policiers qui avaient demandé à un migrant ses papiers, ils leur avaient donné, et les policiers, ils ont enfilé des gants, attrapé l'homme qui était à terre, et ils l'ont mis de force dans un camion pour l'interpeller. Et du coup, la personne qui a écrit le tweet dit n'avoir jamais pu revoir cette personne. Et du coup, en fait, elle a publié ça en janvier 2018, peu après l'adresse des vœux à la nation d'Emmanuel Macron. Et du coup, on se rappelle qu'il avait déclaré à ce moment-là « Vous aurez peut-être dans vos vies personnelles des moments de doute, des drames, mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. » Et du coup, c'est une phrase qui avait quand même pas mal été reprise, détournée, qui était devenue le sujet de blagues récurrentes sur les réseaux sociaux. Et du coup, en fait, ce militant, il a juste voulu poster un tweet un peu dans le même esprit. Et elle permet, enfin, il a pris cette photo qui permettait d'imaginer un dialogue entre trois protagonistes. Du coup, comme je disais, il y a deux policiers et une personne assise par terre qui est une personne migrante. Et du coup, en fait, ce que la personne voulait dénoncer, le fait qu'il y avait des démantèlements de campements de migrants et que les personnes étaient privées de couverture alors que c'était vraiment le beau milieu de l'hiver et que il y avait un empêchement des distributions, c'est-à-dire que les forces de l'ordre empêchaient les associations de faire leur boulot et d'aider les gens, quoi. Le tweet qu'a posté ce gars était en référence directe au vœu d'Emmanuel Macron, et il a voulu confronter son discours aux difficultés que les migrants, mais aussi les personnes qui bossent dans les assos, les militants, tout ça, toutes ces difficultés qui sont rencontrées à Calais. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que tout le monde a vu que le tweet était humoristique et qu'il faisait référence au discours de Macron. Et du coup, ça n'a pas posé, dans un premier temps, de problème particulier. Puis, quelques jours après, il y a les policiers sur la photo et le parquet de Boulogne-sur-Mer qui ont porté plainte pour diffamation. Du coup, l'accusation, elle repose sur quoi? Elle repose sur le fait que c'est un dialogue fictif qui est associé à une image sur laquelle on peut reconnaître les gens. Et la personne qui l'a posté défend le fait que c'était humoristique et que la référence, elle était suffisamment explicite pour que tout le monde puisse se rendre compte que c'était... que c'était de la dérision et que c'était de l'humour, quoi. Les opérations de ramassage de couverture, elles ont vraiment été empêchées sur le terrain, et il avait envie de le mettre en avant. Le militant, il raconte un petit peu qu'il a été accusé d'avoir diffamé ses policiers en particulier. Et ce qui est assez hallucinant, c'est qu'il avait déjà posté pas mal de choses. Et puis surtout, c'était un militant qui était assez identifié. Et jusque-là, il s'était contenté de relater des faits avérés. Et le fait qu'il y ait un témoignage là qui soit... Enfin, le fait que... Voilà, ils ont choisi la première faille pour récupérer... pour essayer de l'arrêter, quoi. Et ça témoigne quand même d'une volonté de faire peur, d'avoir des mots très durs contre les associations qui travaillent à Calais. Gérard Collomb et Christophe Castaner, d'ailleurs, ils ont été totalement intransigeants sur la diffamation à l'encontre des forces de l'ordre. Et il y a des gens qui font face à des situations compliquées avec des enjeux locaux, nationaux et européens. Mais cette stratégie du bouc émissaire permet de faire peur aux gens et de faire que, ils arrêtent de s'exprimer là-dessus. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour les décourager. Ce militant dit que ça marche, quoi, que ça fait quand même un an et demi qu'il est en procès, que c'est stressant, que ça lui coûte cher, que ça lui fout une pression très importante qui fait que ça ralentit un petit peu son investissement sur le terrain. Et le 24 juin, il y a la cour d'appel de Douai qui a confirmé la peine prononcée en première instance, à savoir 1500 euros d'amende avec sursis, 500 euros de dommages et intérêts, en plus des frais de justice. Et la décision rendue en appel a énormément surpris l'inculpé à cause du motif d'illégitimité dans la procédure. Parce que pour poursuivre quelqu'un en diffamation, il y a une loi qui dit, la loi de 1881 sur la liberté de la presse, qui impose au parquet de détailler ses réquisitions au moment du dépôt de la plainte et de clairement établir les faits reprochés. Du coup, le but, c'est de s'assurer du droit à la défense et d'éviter des procédures bâillons. Or là, c'est pas ce qui s'est passé, ça n'a pas été le cas. Il y a le parquet qui n'a pas précisé sur quel texte de loi il s'appuyait pour poursuivre cette personne en justice. Et du coup, c'est passé outre ce vice de procédure par les conditions de poursuite pour diffamation. Donc, ce qu'on peut en dire, c'est que la prochaine étape, c'est le pourvoi en cassation. Donc, c'est pas complètement foutu. Mais en tout cas, il n'y a vraiment rien qui, euh, qui est laissé, rien qui peut passer, quoi. Tout est extrêmement surveillé et ça a été le premier petit truc hors des clous sur lequel ils pouvaient s'appuyer sur la loi pour épingler un militant qui se sont jetés là-dedans. Il se passe plein de choses dans le studio. Aujourd'hui, c'est l'été. Alors, vous entendez des bruits de glace. J'imagine que ça vous donne envie. Ça pourrait presque faire une page publicité, mais on va peut-être pas aller jusque-là. Et par contre, on va vous parler des trottinettes. Et c'est pas non plus pour faire de la publicité.
Mais si ! Ne sont-elles pas merveilleuses, ces trottinettes électroniques qui, depuis un an, déferlent sur Paris et les autres grandes métropoles ? Elle file sans bruit à 25 km/h, elle se faufile sur les trottoirs, les couloirs, les pistes cyclables. Pour le moment, Paris en a déjà 20 000 et ce n'est qu'un début. Le double est prévu avant la fin de l'année. Et bien sûr, il faut un téléphone portable et un compte bancaire pour s'en servir. Mais voilà, vous téléchargez l'appli de l'opérateur de votre choix. À Paris, il y en a pas moins de 12 sociétés qui se disputent le marché. Et on vous indique la trottinette la plus proche. Un peu de marche à pied, quelques tapotages et hop, pour 1 euro, la voilà débloquée. Et pour 15 à 25 centimes par minute, vous circulez où vous voulez. Le trajet est fini, hop, vous la flanquez dans un coin et adios. Le bonheur. Le hic, c'est que derrière l'apparence fun, ludique et résolument tendance, se cache une réalité plus dérangeante. C'est pas seulement en matière de sécurité et de santé publique, parce qu'il y a des accidents à foison. Moi-même, je connais quelqu'un qui a été défiguré suite à après avoir croisé une trottinette qui allait un peu trop vite. Il y a eu 2 morts à Paris déjà. Et il y a maintenant une timide reprise en main par les pouvoirs publics. Donc il y a maintenant une amende de 135 euros pour ceux qui foncent sur le trottoir. Et il y a le casque obligatoire pour les 8-12 ans. Et toutes ces trottinettes qui sont fabriquées en Chine, où on le sait, le dialogue social et les salaires sont fort confortables... toutes ces trottinettes ont une durée de vie des plus courtes, c'est-à-dire pas plus de 3 mois. Après quoi, elles filent à la casse, comme l'a relevé une étude de Boston Consulting Group. Le vrai record d'obsolescence. Un peu gêné, les opérateurs jurent qu'ils vont s'efforcer de les faire durer au moins aller jusqu'à 9 mois. Donc, toutes fonctionnent avec des batteries lithium-ion, lesquelles s'altèrent rapidement et dont les 3 kg au minimum sont composés d'un savant mélange de nickel, de cobalt, d'aluminium, de lithium, de cuivre, de manganèse, on ne sait même pas ce que c'est. Des métaux dont la condition d'extraction ne sont généralement pas un modèle du respect d'environnement. Bref, la trottinette électronique n'est pas vraiment écolo. Et c'est pas tout. Pour recharger les batteries, les opérateurs font appel à des particuliers. Tous sont des travailleurs précaires qui, chaque soir, embarquent des trottinettes pour les emmener dans un local où ils le rechargent pendant 3 heures avec de la bonne énergie, électricité nucléaire. Voilà, donc il y a des centaines de camions qui tournent dans Paris en 18h et 3h du matin. Et tout ça, voilà, pour des trucs... bref. C'est de la merde, quoi. Et en plus, c'est chiant, il y en a partout. Hein.
Des fois, il y en a même dans le Rhône.
Ouais, mais alors ça, c'est encore moins écolo, par contre. Hein.
Oui, mais ça peut avoir un petit côté jouissif. Hein.
Oui, voilà.
Mais j'étais pas vos trottinettes dans le Rhône, parce que oui. Les poissons sont pas contents.
C'est, oui, saboter les trottinettes ailleurs.
En toute écologie.
Rubrique internationale. International.
Rubrique.
Cronaca internazionale.
Et oui, et du coup, là, on va essayer de vous donner quelques informations et quelques nouvelles du bateau qui s'appelle Sea-Watch 3 et que vous avez peut-être entendu depuis 2 semaines, est pas très loin des côtes italiennes, avec actuellement une quarantaine de personnes migrantes qui sont dans le bateau. Du coup, c'est depuis le 12 juin que ce bateau, le Sea-Watch 3, avait secouru 52 personnes migrantes au large de la Libye. Et du coup, il avait essayé de se rapprocher des côtes italiennes. Et l'Italie avait dit reporter, ramener à nouveau ses migrants en Libye tout de suite. Et le bateau avait refusé parce qu'il ne considère pas la Libye comme un port sûr. Et donc, pendant deux semaines... depuis deux semaines, plus que deux semaines, ce bateau est resté un peu dans les eaux internationales, juste à côté de la frontière des eaux territoriales italiennes, en attendant d'arriver à négocier avec l'Italie, de pouvoir se rapprocher de Lampedusa pour faire descendre ces personnes. Sachant que le bateau, il n'est pas très grand, et du coup, 50 personnes sur un même bateau, sous le soleil, dans la mer, c'est quand même une situation très très lourde. Donc pendant ces deux semaines, il y a quand même eu des personnes particulièrement vulnérables qui ont eu l'autorisation de descendre et qui sont du coup arrivées sur les côtes italiennes. Mais du coup, il y avait encore jusqu'à hier 42 personnes, plus évidemment l'équipage. Du coup, mardi de la semaine dernière, donc ça faisait déjà 13 jours que le bateau attendait avec des personnes au bord, l'ONG Sea-Watch avait saisi la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, contre l'Italie, pour que la CEDH donne injonction à l'Italie en toute urgence de faire descendre les personnes dans le port de Lampedusa. La CEDH, par contre, n'avait pas vraiment pris une décision dans ce sens, parce qu'elle disait que ce n'était pas de sa compétence, elle n'avait pas une urgence vitale, mais elle avait demandé au gouvernement italien de prendre toutes les mesures nécessaires aussi rapidement que possible pour apporter à tous les requérants les soins médicaux adéquats, la nourriture, l'eau et l'approvisionnement de base jugés nécessaires. Il faut savoir aussi que parmi les migrants et migrantes sur le bateau figurent 15 personnes mineures non accompagnées, pour lesquelles la CEDH demande que l'Italie fournisse l'assistance légale adéquate. Bref, ça n'a pas changé beaucoup cette décision de la CEDH. Du coup, le 26 juin, c'était mercredi, le bateau a décidé de rejoindre Lampedusa et de rentrer dans les eaux territoriales italiennes malgré l'interdiction de l'Italie. Du coup, le bateau est actuellement dans les eaux territoriales italiennes, mais elle n'a pas eu le droit de se rapprocher vraiment au port. Donc, le bateau est encore dans l'eau. Hier, il y a eu quand même deux personnes qui ont été transportées à Lampedusa à cause d'une urgence médicale. Et voilà, la situation est encore bloquée. Et les nouvelles d'aujourd'hui, c'est que voilà, le bateau, il est toujours dans la mer. Il y a toujours 40 personnes au bord. La nouvelle, c'est que le procureur de Agrigento, donc c'est une ville en Sicile, a ouvert une enquête sur la capitaine de bord du Sea-Watch 3. C'est Carola Rackete. Du coup, elle est accusée de... la violation de l'article 1099 du code de la navigation, j'ai pas trouvé ce que c'est, mais en gros c'est d'avoir facilité l'immigration clandestine, si j'ai bien compris. Du coup, il y a ça, et il y a aussi le fait que Salvini avait fait approuver il n'y a pas très longtemps un décret sécurité bis qui prévoit aussi que par exemple tout bateau qui amène des personnes migrantes dans les ports italiens sans autorisation, il peut avoir des amendes de 10 à 50 000 euros à la charge du capitaine ou du propriétaire du bateau, et que le bateau peut même être immobilisé si c'est la deuxième fois ou plus qu'il fait ça, ou s'il y a plus de 100 personnes à bord. Donc voilà, actuellement c'est la capitaine du Sea-Watch 3 qui a cette enquête en cours sur elle, et il y a un risque d'immobilisation du bateau, ce qui aurait le côté positif que dans ce cas-là quand même toutes les personnes qui sont sur le bateau pourraient descendre en Italie et avoir des soins et pouvoir être accueillis dans des conditions sûrement plus dignes que le bateau. Donc, en fait, pendant ces jours, il y a eu tout un espèce de faux débat sur pourquoi le bateau pouvait pas
Genre pourquoi on me dit qu'il faut aller plus vite. Donc pardon, du coup, j'essaie de dire pourquoi le bateau, il doit approcher les côtes italiennes plutôt que celles d'autres pays. Du coup, il y a eu tout un faux débat des politiciens italiens qui disaient mais pourquoi il n'est pas retourné en Libye, pourquoi il n'est pas allé en Tunisie, pourquoi il n'est pas allé en Allemagne, pourquoi il est aux Pays-Bas. Du coup, juste un petit rappel du droit international maritime, tout ça, c'est qu'en fait, tout sauvetage en mer, genre toute personne secourue en mer, elle doit être amenée vers le port sûr le plus proche. Donc port sûr, ça implique que par exemple, la personne, elle doit pouvoir être accueillie de façon digne. Par exemple, si c'est une personne qui est amenée à demander la protection internationale, qu'elle doit pouvoir le faire dans des conditions considérées adaptées par le droit international. Donc par exemple, ça n'existe pas en Libye, et ça en fait tout le monde le dit à part Salvini. Et par exemple, la Tunisie non plus garantit pas des conditions particulièrement respectueuses des droits humains des personnes migrantes, parce que par exemple, ce qui s'est passé il y a pas très longtemps, il y a eu 75 migrants qui ont été ramenés en Tunisie et qui voulaient demander l'asile. En fait, ils ont été transférés dans des centres de détention et menacés pour qu'ils acceptent de quitter le pays tout de suite. Et il y a aussi une question de géographie, c'est qu'en fait la mer n'est pas une autoroute et que du coup il y a une météo qui conditionne les conditions de voyage et que voilà, en fait voyager en mer ça peut être très dangereux, d'où l'importance d'aller dans l'endroit le plus proche et pas par exemple en Espagne, aux Pays-Bas ou en Allemagne parce que c'est plus loin. Et en tout ça, ce qu'il y a eu en Italie, c'est que bien évidemment, c'était l'occasion pour toute une série de politiciens de jouer à la fête, à la médiatisation. Et Salvini, le premier, il a dit tout ce qu'il a pu sur les social networks, sur les télévisions. Il a même fait des selfies avec marqué gros bisous aux hors la loi et aux ONG. Et voilà, ça a été un peu horrible, tout ça. Et ce qui est positif, c'est qu'il y a quand même beaucoup de solidarité internationale. Il y a une récolte de sous en cours. Il y a 250 000 euros qui ont été récoltés pour soutenir la Sea-Watch 3 et sa capitaine en cas où il y aurait des amendes ou des procès. Voilà.
Et on va pour la suite de cette rubrique internationale aux États-Unis, en Alabama plus précisément, où il y a en décembre dernier une femme enceinte qui avait reçu une balle dans le ventre et qui vient d'être inculpée pour le meurtre de son fœtus. Du coup, en fait, cette inculpation peut avoir lieu car l'enquête a montré que la seule victime était l'enfant à naître. C'est la mère de l'enfant qui a initié cette dispute, laquelle a causé la mort de son enfant. Et là, je cite le lieutenant de police local. Du coup, ce qu'on peut en dire, c'est que ça fait fortement écho à la loi du 15 mai dernier qui a adopté la loi anti-avortement la plus restrictive du pays, donc même en cas de viol, d'inceste, et qui condamne à la prison les médecins qui souhaitent y déroger. Ça témoigne du coup d'une généralisation inquiétante de l'oppression d'État sur le corps des femmes. Et voilà, et du coup on tenait à la relater pour cette raison, parce que c'est particulièrement inquiétant.
Et on reste aux États-Unis, mais on fait un petit bond dans le passé, parce qu'aujourd'hui c'est les 50 ans des émeutes de Stonewall, puisque c'est donc 50 ans la jour pour jour, le 28 juin 69, que les clients d'un bar de New York, donc le Stonewall Hill, se sont insurgés après une énième descente de la police dans l'un des seuls établissements de la ville où la présence des homosexuels était tolérée. Dans les semaines et les mois qui suivent, la contestation renforce des mouvements naissants qui se constituent en tant que force politique. La nuit du 27 au 28 juin 69 marque donc symboliquement pour les États-Unis et l'Europe occidentale la naissance des mouvements de revendication homosexuelle contemporains. À l'époque, la législation puritaine interdit le travestissement et la danse entre hommes. Situé dans Christopher Street à New York, le Stonewall Hill est un des seuls bars à clientèle homosexuelle de la ville, toléré par la police contre pot de vin régulier du patron. L'endroit subit de fréquents contrôles avec leur cortège d'injures, d'humiliations, de chantage. La descente de police de la nuit du 27 au 28 juin déclenche pour la première fois une rébellion des clients interpellés, puis de tout le quartier. Pendant 5 jours, ce quartier vit alors au rythme des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants et manifestantes, rompant avec les associations qu'on dit homophiles, soucieuses de discrétion et de respectabilité. Le Gay Liberation Front est fondé peu après. Les événements sont commémorés un an après, le 28 juillet 70. Le tribunal de New York a en effet autorisé in extremis le défilé de 2000 manifestants et manifestantes pour la Christopher Street Liberation Day Parade, présentée comme étant l'ancêtre de toutes les Gay Pride d'aujourd'hui. Devenu un événement mythique et fondateur pour les combats LGBT, Stonewall occupe aujourd'hui une place à part entière dans l'imaginaire du militantisme de toutes les minorités. Mais alors qu'à l'origine de cette émeute comptait des lesbiennes, des travailleuses du sexe, des drag queens, des trans, des personnes racisées telles Sylvia Rivera ou Marsha P. Johnson, l'imaginaire collectif a produit un récit invisibilisant les actions de ses protagonistes et leurs multiples appartenances. Si les droits des personnes LGBT ont largement progressé depuis, grâce aux combats menés par ces personnes elles-mêmes, celles-ci restent aujourd'hui encore les plus dénigrées et font régulièrement l'objet de propos et d'actes violents. Si vous souhaitez en entendre plus et en savoir plus, vous pouvez réécouter l'émission de tout à l'heure de On n'est pas des cadeaux sur Radio Canu, qui revient plus précisément sur ce qui s'est passé le 28 juin 69 au Stonewall Hill.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Eh bien, aujourd'hui, si vous pouviez retourner dans le passé, vous auriez pu aller au centre d'autodéfense numérique qui se passe au CCO. Et du coup... ce qui est génial, c'est que c'est pas trop tard, c'est qu'il y a encore deux sessions, c'est le 11 et 12 juillet. Du coup, c'est des. Voilà. c'est trois sessions de formation gratuites et identiques. Donc, ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, vous pourrez le faire le 11 et 12 juillet. Super. Venez avec votre ordinateur ou, dans le cas contraire, signalez-le aux organisateurs et organisatrices. Et voilà, c'est accessible à tous et à toutes, même les personnes qui ne sont pas expertes d'informatique.
Et voilà, et on vous en a parlé tout à l'heure, il y a un rassemblement qui a commencé à 18h donc, au Jardin des Chartreux pour lutter contre les expulsions. Donc voilà, si vous pouvez encore rejoindre là-bas, le Jardin des Chartreux, qui est du coup pas très loin de la radio.
Et demain, il se passe un événement qui s'appelle La Ville Inhospitalière à Place Guichard de 11h à 18h. C'est organisé par l'association Les Robins des Villes qui vous donne du coup rendez-vous à 11h à Place Guichard. À l'heure des mobiliers anti-SDF, des déplacements des populations migrantes, de la privatisation et de la sécurisation des espaces publics, il paraît plus qu'urgent de questionner notre chez-soi urbain. Du coup, voilà, c'est une association qui fait de l'éducation populaire autour des thématiques de la ville depuis 1997. Donc voilà, il y a une journée assez riche avec des conférences, des balades urbaines, du slam, des tables rondes, une fanfare et entre-temps des ateliers de détournement de mobilier, des animations, des expos, des ateliers de sérigraphie et encore plus de trucs. Allez-y, ça va être super.
Et voilà, et si vous ne voulez pas rester à Lyon, vous pouvez aller à Saint-Étienne puisque ça va être la fête de Numéro Zéro. Numéro Zéro qui est un site d'information locale sur Saint-Étienne qui est donc comme un peu les rébellions à Lyon et donc qui va fêter ses 16 ans, 2 mois et 4 jours. Et donc cet anniversaire aura lieu à Ursa Minor avec plein de stands d'infos locales, il y a tout un truc qui... C'est à partir de 17h. Il va y avoir aussi des concerts, de plein de trucs. Donc à 17h, il y aura de quoi s'informer et se restaurer. À 18h, il y a une rencontre autour des squats et des luttes pour le logement et des sans-papiers, notamment avec le collectif de l'Amphi-Z. À partir de 19h, et donc il y aura un peu le début du son, hein, voilà, avec divers groupes. Et voilà, et tout ça est à prix libre. Le numéro 0 signale qu'il y aura aussi une petite adhésion à Ursa Minor qui sera aussi à prix libre.
Et toujours samedi, à partir de 19h, au Chat Perché, y aura la fête des félines. Alors, le Chat Perché, c'est un lieu de réparation vélo associatif où chacun et chacune peut aller réparer son propre vélo aidé par des bénévoles. Et du coup, depuis quelques années, il y a aussi des moments de réparation des mécaniques vélo en non-mixité ou en mixité choisie. Du coup, les Simones fêtent samedi leurs 4 ans. Donc super, il y aura une grosse fête avec buvette et repas végétariens avec adhésion prix libre au Chat Perché. Du coup, il y aura une visite à l'atelier à 19h. Et après, de 19h30 à 20h30, la projection d'un film sur la mécanique vélo en mixité choisie meuf et personne trans, réalisé par Constance Bross. Suivi d'une discussion en présence de la réalisatrice. Et ensuite, il y aura une surprise à 21h. Donc voilà. Et un concert par la suite. Donc ça, ça annonce super. Est-ce qu'on a encore de l'agenda ?
Non, on n'a plus d'agenda.
Ah bah.
Il fait trop chaud.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAP.
Cagnosco du vendredi.
Et cette semaine, à CAB, ça veut dire avec le chômage, arrêtons de bosser.
Et maintenant, noise pollution.